de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle « Les chroniques amnestiennes, émission sur les droits humains dans le monde ». Aujourd'hui, Pascal, Jackie, Jean-Marie et Jean-Michel animeront l'émission. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Notre émission de ce mois sera essentiellement consacrée à l'opération mondiale annuelle « 10 jours pour signer » qui se déroule tous les ans autour du 10 décembre, date anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Nous vous donnerons toutes les informations relatives à l'organisation de cette opération sur Albi, Gaillac et Carmo, mais aussi comment participer en ligne sur le site dédié à cette opération si vous ne pouvez vous rendre dans nos centres de signature les jours prévus. Après une pause musicale, nous vous donnerons des informations plus précises sur les 10 cas présentés à vos signatures cette année. Enfin, nous évoquerons en fin d'émission la lettre ouverte adressée le 13 novembre à Aung San Suu Kyi par le secrétaire général d'Amnesty International, Kumi Naidoo, pour l'informer que l'organisation lui retirait le prix Ambassadeur de la Conscience, sa plus prestigieuse distinction, prix qu'elle lui avait décerné en 2009.
Donc Jean-Michel, tu viens de le dire, était une année importante pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça fait maintenant 70 ans.
Eh oui. On est en 2018 et cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée donc il y a 70 ans à Paris par les Nations Unies. Elle constituait et elle constitue toujours bien sûr une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, des droits universels applicables à tous et partout dans le monde sont reconnus par la communauté internationale. Cette déclaration universelle a ensuite inspiré de nombreux textes de droit international destinés à protéger les droits humains. C'est un texte essentiel et fondateur du combat mené par notre organisation Amnesty International pour plus de justice et d'égalité. Nous nous y référons en permanence. Un combat qui vise à défendre ces droits universels quand ils sont menacés, à demander justice quand ils sont bafoués et à les promouvoir auprès du plus grand nombre. C'est parce que la Déclaration universelle a permis des avancées considérables en termes de respect et de protection des droits humains que nous souhaitons donc mettre l'accent cette année anniversaire plus que jamais et montrer notre mobilisation pour continuer à faire connaître le texte. Nous continuons aussi d'exiger de la part des États le respect plein et entier des droits énoncés dans la Déclaration.
Oui, donc cette année particulière, puisqu'on va marquer ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la campagne qui se prépare bientôt pour décembre, puisque c'est à cette date qu'avait été signée cette déclaration, c'est que va faire Amnesty, là ?
Eh bien, Amnesty a axé sa campagne cette année sur la défense des défenseurs des droits humains. Je vais y revenir pour expliquer à nos chers auditeurs ce qu'est un défenseur des droits humains. Et en particulier... Et là, en totalité, je dirais qu'il y a 9 cas, on le verra tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, il y a 9 cas féminins et un cas de groupe, j'allais dire. Voilà. Donc, cette année, on a mis vraiment l'accent sur la défense des droits humains féminins, femmes. On pense que c'est une année essentielle, on l'a vu avec pas mal d'événements. Mais on note également que dans le monde, eh bien, il y a souvent des femmes au premier rang des luttes pour défendre des communautés, des groupes. Et on a voulu vraiment mettre l'accent sur cette particularité-là. Je rappelle simplement que les 10 jours pour signer, c'est vraiment un moment fort. Et on souhaite donc vraiment mettre en valeur ces cas-là. Alors, on a une campagne qui s'appelle Brave en anglais, peu importe, qui signifie courage ou courageux, comme vous voulez. Donc, il faut bien quand même rappeler qu'on vit une époque quand même de plus en plus de peur, de clivage, de politique, de diabolisation. Et on fait face dans le monde entier à des discours construits sur l'idée du « eux contre nous », qui rejettent sur des groupes entiers de population leurs responsabilités et problèmes sociaux et politiques. Donc c'est une raison pour laquelle on a voulu en première ligne, puisqu'il se trouve des gens qui défendent ces personnes et ces groupes vulnérables. Ces gens-là, on les appelle donc les défenseurs des droits humains. On a voulu vraiment mettre l'accent cette année sur cette campagne-là. Je rappelle qu'en 1998, l'ONU avait adopté la déclaration sur les défenseurs des droits humains et la société civile. Donc, si vous voulez, je dirais que c'est un statut, entre guillemets, qui est reconnu au niveau international. Et nous souhaitons relancer ce statut, faire en sorte qu'il soit de plus en plus possible d'être un défenseur de droits humains, dans la mesure où la situation étant ce qu'elle est dans le monde, il y a en fait de plus en plus de menaces, d'attaques, d'assassinats, de défenseurs de droits humains. Les États freinent, émettent des lois éventuellement pour les bloquer. Vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que la situation s'est dégradée dans un certain nombre de pays dans le monde et que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le eux contre nous. Hein, donc, ce sont des situations difficiles et ces défenseurs sont aujourd'hui en grand danger, souvent. Voilà. Donc, on vous verra dans les cas qu'on vous présentera effectivement que ces situations sont difficiles. Et ne soyez pas surpris donc de voir que cette année, nous axons vraiment notre opération sur ces cas-là. Voilà. Donc, je finis en parlant de la définition. Un défenseur des droits humains, qu'est-ce que c'est ? C'est toute personne qui, individuellement ou en groupe, agit pour défendre et ou promouvoir des droits humains, que ce soit au niveau local ou international. C'est lui, donc cette personne-là, qui est considérée comme un défenseur de droits humains. Ce qui distingue donc un défenseur de droits humains, c'est son action non violente pour les droits, quel que soit son statut et son métier. Ces personnes viennent de tous horizons et peuvent mener leurs activités, soit dans le cadre de leur profession, soit à titre personnel ou bénévole. Par leurs actions, elles défendent l'égalité et la justice pour chacun d'entre nous.
Je rappelle quand même que le mois dernier, on a évoqué dans cette même radio un rassemblement mondial qui s'est tenu à Paris.
Voilà, tout à
fait. Sur justement les 20 ans après 98, donc. Qu'est-ce qu'il en est de ces défenseurs des droits humains ? Et il y a eu donc fin octobre, 3 journées de rassemblement.
150 personnes qui ont été rassemblées,
oui,
hein, c'est ça,
à Paris. Donc 150 pays, c'est quand même important, qui se sont retrouvés à Paris, hommes, femmes, de toute nationalité.
Pour échanger sur leur situation dans leur propre pays et leur propre activité.
Voilà, et voir comment ces textes-là étaient encore mis en application, voir comment ils pouvaient s'être améliorés.
Tout à fait. Et j'en profite, suite à ton intervention, à signaler que nos auditeurs peuvent aller en ligne, signer sur amnesty.fr.
Absolument.
L'appel mondial des défenseurs des droits humains. Mmh. On était au cinéma cette semaine pour le film Libre. Et voilà, Cédric Héroux est un exemple de défenseur de droits humains. Il défend un groupe, etc. Donc on a profité pour présenter cet appel mondial des défenseurs de droits humains et faire signer les personnes qui étaient là. Donc allez-y, signez-le. Cette pétition est là pour un petit moment. Elle est adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et signer cet appel en masse pour montrer que les droits humains sont à défendre. Les défenseurs des droits humains sont vraiment des personnes qu'il faut respecter. Ils luttent pour la justice et nous sommes avec eux. Oui, alors l'année dernière, l'opération 2017 avait assez bien marché, c'est en tout cas le Tarn-Nord, voilà. Et au niveau français aussi, international, les statistiques ont été données à l'époque. Simplement, on nous pose souvent la question, mais est-ce que ça marche ? Ouais. Donc on ne va pas vous faire le détail des 10 cas, mais on a pris 2-3 exemples, Jean-Marie, pour un petit peu, pour montrer que ça marche très bien, mais que ça peut aussi ne pas marcher du tout.
Oui, en tout cas, manifestement, ça reste utile.
Voilà.
Alors, un exemple d'une première situation sur les 10, puisqu'il y a 10 situations. Cette année, on a dit qu'on aurait 10 situations de femmes. L'année dernière, il y avait 10 situations, toujours dans des pays, des continents variés, pour ne pas se focaliser sur un seul continent. Donc, c'est Tadjadine Mahamat Bamboury, qui est quelqu'un qui était au Tchad, qui avait été emprisonné parce qu'il avait mis une publication sur Facebook, tout simplement, critiquant les fonds, l'utilisation des fonds publics. Donc le 5 avril, il a été libéré. Et donc 3 semaines après, on l'a quitté aussi de ses accusations et de diffamation. Donc il est maintenant complètement libre de toute charge, bien sûr, de la prison, mais aussi de toute charge pénale. Donc voilà un exemple qui n'aurait pas retrouvé la liberté s'il n'y avait pas eu l'action.
Tout à fait, oui.
Alors, un autre exemple qui est moins pertinent, enfin moins définitif, mais c'est en Turquie. Le président de Amnesty Turquie et puis les 10 membres d'Amnesty avec la directrice qui ont été libérés, les premiers, les 10, puis ensuite le président, en août dernier. Ils sont libérés, donc, mais le président, après beaucoup d'interventions à la fois internationales et puis, oui, et puis des groupes divers.
Il y a eu des relances
assez nombreuses.
Incessantes, je veux dire.
Et ils sont libérés, mais les poursuites pour l'instant ne sont pas encore abandonnées. Donc on voit bien que c'est une amélioration importante, puisqu'il n'y a pas d'emprisonnement, mais tout n'est pas gagné. Alors ensuite, on a plusieurs situations de personnes qui sont un petit peu comme ça. Il y a eu dans leur site des améliorations, des soins médicaux qui ont été apportés. Un rapprochement d'une prison éloignée à une prison plus proche de la famille. Parfois aussi le fait d'avoir sensibilisé les médias qui ont relayé l'information.
Oui, c'est important qu'on en parle.
On fait pression. Élément important aussi, c'est les lettres qui ont été adressées en soutien aux familles et qui apportent toujours un soutien moral très très important.
Mettre en valeur une situation, faire apparaître que cette situation existe alors qu'elle était tue, c'est très important. Et Amnesty International joue ce rôle-là. Une fois que la personne est connue.
On sait ce qui se passe.
En général, c'est plus difficile pour l'autorité qui bafoue le droit de ne pas le...
Deux exemples aussi de situations. Une au Bangladesh et une en Israël et puis en territoire occupé, pour lesquels il n'y a absolument aucune amélioration au regard de la situation qu'on connaissait en décembre l'année dernière. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est des situations qu'il va falloir poursuivre, puisque chacune de ces situations n'est jamais laissée tomber. Elles sont reprises, puisque c'est une action internationale, par différents pays éventuellement, ou par différents groupes, et qui continue à agir pour tenter de faire soit libérer, soit améliorer les situations.
Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Je crois qu'on avait fait un point en septembre, dans l'émission de septembre, si je me souviens bien.
Oui, oui.
On l'avait pris tous les cas. Et on peut dire qu'en gros, et c'est ce qu'on dit, c'est ce que statistiquement on retrouve un peu tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 cas sur 10 sur lesquels on a eu un retour intéressant.
Oui.
Soit total, soit une avancée assez significative. Puis il y a 2-3 cas sur lesquels on bute.
Voilà.
Donc classique. Donc il faut cette année encore se mobiliser. On va vous donner tout à l'heure les lieux sur lesquels vous pourrez venir signer. Et on vous expliquera, si vous ne pouvez pas venir, comment vous pourrez faire.
Alors, comment ça s'organise cette année?
Alors, cette année, nous serons sur 3 sites, comme l'an dernier, Albi, Carmo, Gaillac. Les sites, les centres de signature, je dirais, seront ouverts, comme tous les ans depuis 4-5 ans, je ne sais plus, sur Albi, à la médiathèque d'Albi. On y sera aux horaires d'ouverture le vendredi 7 et le samedi 8 décembre. Donc, l'heure d'ouverture, c'est 10h, 19h le vendredi et 10h, 18h le samedi. Donc, vous pourrez venir voir nos affiches, nous vous expliquerons les cas. Et nous attendons nombreux. Nous ferons la même chose à la médiathèque de Carmo, depuis 2-3 ans, donc nous y sommes. Et là, nous y sommes le 5, c'est-à-dire le mercredi 5 décembre, et le samedi 8 décembre, là, l'ouverture est complète de la médiathèque, toute la journée, et vous pourrez donc venir, si vous êtes à Carmo ou pas loin de Carmo, vous pourrez venir voir nos militants donc, du groupe Amnesty International d'Albi, discuter avec eux, signer des pétitions, et vous informer. Et peut-être participer à nos opérations l'an prochain. Voilà. À Gaillac, un petit peu comme l'an dernier, on a repris un petit peu le même fil conducteur. On va présenter un film, a priori le 6 décembre, ça reste à confirmer. Regardez vos programmes cinéma. À Carmo, je pense qu'il y aura aussi au film, mais regardez vos programmes cinéma, ce n'est pas encore tout à fait validé. Donc un film certainement le mardi 6 décembre à Gaillac avec une présentation et les signatures. Voilà. Donc, un petit peu comme tous les ans. Et venez nombreux et nous espérons beaucoup de contacts et de signatures. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, bien entendu, il y a le site d'amnesty.fr sur Internet. Et là, vous disposerez normalement en ligne de toutes les pétitions. J'ai même vu, je crois, sur Amnesty Belgique, il y a une signature en bloc qui était possible de 10 à la fois. Ben, ça va plus vite. Mais on peut ne pas être d'accord hein, sur une pétition. Donc voilà. Donc j'ai vu ça sur Vestibule-Vie, je l'ai transféré d'ailleurs à mes amis du groupe pour leur montrer qu'il y avait des initiatives.
Facebook, je pense aussi peut-être.
Facebook aussi. Enfin, sur Facebook, sur notre blog, vous aurez des liens aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et cette émission, d'ailleurs, vous pourrez la suivre sur notre podcast aussi, et sur podcast d'ailleurs de Radio Albigès, si vous ne pouvez pas l'écouter aux heures normales d'audition sur Radio Albigès. Voilà. Donc on vous attend nombreux. Venez nombreux, tous les ans ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent nous voir, pour l'essentiel, sont d'accord avec ce qui est écrit là, signent, donc venez, voilà.
J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. Rue Sarrazade, j'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes, dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie, et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui, pour épater leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazy, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui
et seul responsable si je suis un homme haut, comme ils disent.
Voilà. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec le groupe Amnesty International d'Albi pour son émission mensuelle Les Chroniques Amnestiennes, qui ce mois-ci vous parle essentiellement de l'opération 10 jours pour signer du mois de décembre, l'opération annuelle. Nous avons passé Charles Aznavour avec une chanson qui à son époque était une chanson qui a un petit peu défrayé la chronique, il était un petit peu en avance, les 70, je crois que les problèmes à l'époque d'homosexualité, etc. étaient des problèmes dont on ne parlait pas et qui étaient montrés du doigt, c'était encore je crois punissable d'ailleurs en France, hein, si je ne me trompe pas au point de vue date, ça doit être ça. Voilà, donc on a trouvé que c'était intéressant de le passer dans cette période où bon, on parle beaucoup de LGBTI, de problématiques de ce genre-là, d'évolution dans le monde. Merci Charles Aznavour. Voilà. Bien, donc nous allons passer maintenant, j'allais dire, au dur hein, de l'opération, c'est-à-dire les cas où on vous les passe en rap rapidement, bien entendu. Hein. On va pas, vous pourrez venir voir sur place, sur le site, voire en ligne. Quel est le détail un petit peu des agressions subies par le défenseur de droits humains que nous défendons. Mais enfin, on va vous donner quelques indications. Voilà, simplement, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une campagne aujourd'hui qui est axée autour des défenseurs de droits humains. Et tous ces droits humains, tous ces défenseurs sont des défenseurs re, c'est-à-dire des femmes. Il y a une exception, il y a un groupe, mais il y a bien sûr des femmes dans le groupe. Voilà, donc on va commencer, je vais dire, par le premier cas, Jackie.
Oui. Alors, je vais vous parler d'Athena Demi, une Iranienne, qui est en prison pour s'être prononcée contre la peine de mort. Elle milite donc pour l'abolition de la peine capitale en Iran. Cette trentenaire a posté des messages sur Facebook et Twitter critiquant le nombre record d'exécutions dans son pays. Plus de 500 en 2017, selon Amnesty International. Elle a également distribué des tracts et participé à des manifestations pacifiques contre l'exécution d'une jeune femme. Ses activités ont été qualifiées de criminelles lors de son procès, qui n'a duré que 15 minutes. Elle a été déclarée coupable de charges forgées de toutes pièces liées à la sécurité nationale, et notamment de rassemblement et collusion, en vue de commettre des infractions compromettant la sécurité nationale. Athena a écopé de 7 ans de prison. En détention, elle a été battue, aspergée de poivre, contrainte à l'isolement cellulaire. Elle continue malgré tout son combat. Elle a entamé une grève de la faim pour protester contre son transfert dans une prison à l'extérieur de Téhéran. Mais sa situation est emblématique de la répression à l'encontre de celles et ceux qui luttent pour plus de justice. Des dizaines de défenseurs sont ainsi jetés en prison, et beaucoup d'autres déplacés sous surveillance, soumis à des interrogatoires et à d'interminables poursuites visant à les réduire au silence.
Voilà, donc, premier cas, si en ligne, c'est un cas iranien. Nous allons passer au deuxième cas, Pascal.
Oui, moi je vais vous parler de Géraldine Chacon, donc au Venezuela. Géraldine a 25 ans, elle est avocate et elle était directrice adjointe de la Fondation Ambassadeur Communautaire, une ONG vénézuélienne fondée en 2018 par des étudiants pour travailler auprès de jeunes en difficulté. Elle a siégé donc dès 14 ans dans une institution locale pour la jeunesse, puis fondé et coordonné le réseau local jeune d'Amnesty International à l'Université de Caracas. Le 1er février 2018, elle est arrêtée par des agents du service bolivarien de renseignement à son domicile, sans mandat d'arrêt. Elle a été adoptée par Amnesty comme prisonnière d'opinion et libérée sous condition après 4 mois d'emprisonnement arbitraire et dans des conditions sanitaires déplorables. Elle n'a pas le droit de quitter actuellement le territoire. L'arrestation de cette jeune femme semble liée à ses responsabilités au sein de la Fondation Ambassadeur Communautaire. En effet, l'ONG a été mentionnée le 17 janvier 2018 dans l'émission télévisée Con el Mazo Dando, au cours de laquelle dissidents, défenseurs des droits humains et opposants politiques sont régulièrement harcelés et attaqués.
Très bien. Voilà, donc Venezuela dans ce cas-là. Jean-Marie ?
Alors on part en Kirghizistan. C'est une femme, donc Gulzar Duisenova, j'espère ne pas écorcher trop son nom. Elle se bat pour les personnes handicapées. En 2002, elle a un accident grave, un accident de la route, face à un conducteur qui est en état d'ivresse, et elle perd l'usage de ses jambes. Donc, et l'année suivante, son mari meurt subitement et se retrouve donc seule pour éduquer ses deux jeunes enfants. Donc elle essaye de s'en sortir, tant bien que mal, et elle fait connaissance d'autres personnes handicapées qui sont confrontées au même problème qu'elle sur des lieux de vie ou sur le lieu de travail, hein, tout simplement pour se déplacer lorsqu'on a besoin de franchir des escaliers, lorsqu'on a besoin de prendre un bus, que sais-je encore. Donc elle se donne un peu une mission d'aider les personnes qui sont handicapées à vivre dignement et à se déplacer librement. Et donc elle est confrontée, elle, dans son pays, qui n'est pas très favorable à ce type d'action, à une double discrimination. D'une part, c'est une femme, alors qu'on est dans ce pays quand même face à une société de valeurs patriarcales. Et puis, c'est une personne handicapée, donc considérée comme invalide, puisqu'elle est atteinte d'une maladie qui est incurable. Donc je crois qu'on va essayer de la soutenir dans cette action générale pour les personnes handicapées.
Très bien. Alors je vais vous parler moi de Marielle Franco, qui a été assassinée pour avoir porté la voix des plus vulnérables au Brésil. Alors c'était malheureusement une infatigable militante et conseillère municipale de Rio de Janeiro. Et elle a été abattue avec son chauffeur le 14 mars 2018 à l'âge de 38 ans. C'était une fille des favelas du nord de Rio. Elle s'était engagée dans la défense des droits humains après la mort d'une amie victime d'une balle perdue dans un affrontement entre des trafiquants et des policiers. Elle était bien connue pour son activisme en faveur des femmes noires, des LGBTI et des jeunes, et elle dénonçait en particulier les violences policières. Les éléments de preuve révèlent que le meurtre fut exécuté par des professionnels, et le lot de munitions qui a alimenté le meurtre, on l'a prouvé, avait appartenu initialement à la police fédérale. Donc, malheureusement, le Brésil, ça ne s'arrange peut-être pas trop. Là. Avec au moins 70 assassinats de défenseurs des droits humains en 2017, il faut le souligner, le Brésil est l'un des pays les plus meurtriers au monde et les auteurs de ces violences restent trop souvent impunis. Alors, il faut le faire savoir et venir signer la pétition de Marielle Franco.
Je continue donc avec un cas sur le Maroc. Nawal Ben Aïssa, qui est mère de 4 enfants, elle est devenue l'une des principales voix du mouvement social Irak al-Shaabi qui secoue le RIF. Beaucoup d'habitants dans cette région se sentent délaissés par l'État et réclament davantage d'investissements. Nawal, qui s'est joint aux manifestations, elle a également essayé de mobiliser sur les réseaux sociaux à travers de petites vidéos publiées sur Facebook. Mais les autorités marocaines ne l'entendent pas de cette oreille. Elles harcèlent la militante pour tenter de la réduire au silence. Elles l'ont arrêtée et placée en détention à 4 reprises en l'espace de 4 mois. Et lui ont intimé de fermer son profil Facebook qui comptait 80 000 abonnés. En février 2018, elle est finalement condamnée à 10 mois de prison avec sursis et à une amende pour incitation à commettre des infractions pénales. Elle a fait appel de ce verdict, mais les pressions se poursuivent et pour éviter la surveillance constante, elle a dû déménager dans une autre ville. Il y a plusieurs cas comme la situation de Nawal. Les manifestations pacifiques sont arrêtées par les forces de sécurité, parfois simplement pour avoir exprimé leur soutien au mouvement Irak lourdement réprimé. Mais la jeune femme souhaite être libre de se battre pour un avenir meilleur pour sa communauté et ses enfants.
Il faut les... Pascal ?
Oui, Nonlé Mutuma, qui vit en Afrique du Sud, donc, et qui est actuellement à la tête d'une campagne contre un projet d'extraction de titane qu'une compagnie australienne, la MRC, cherche à imposer dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Alors, cette femme est membre de la communauté Amadiba qui possède des droits communautaires sur cette terre située dans la région de Pondoland et connue pour sa biodiversité. Donc, si le projet est autorisé, ce sont environ 5000 personnes qui seront expulsées, perdant ainsi leur foyer, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. En 2007, elle a donc cofondé le comité de crise Amadiba, ACC, qui réunit 5 villages pour mieux combattre le projet de la MRC en mobilisant médias, avocats et ONG. Actuellement, Nonlé Mutumba est en danger. Elle a survécu à une tentative d'assassinat et reste la cible de menaces de mort. En 2016, l'un de ses collègues de l'ACC a été assassiné. voilà, donc il était en fait, il avait confié avant sa mort être le numéro 1 sur une liste noire sur laquelle Nonnelly figure en deuxième position.
Très bien, Pascal. Jean-Marie.
Eh bien, on va continuer sur ce thème des communautés qui essayent de défendre leurs terres en Inde. Et la défenseur dont on va parler, c'est Pavitri Manji, qui est harcelée parce qu'elle résiste à des entreprises qui veulent expulser de ses terres c'est la communauté dont elle fait partie, puisque c'est la communauté autonome d'Adivasi, et elle habite dans un village plutôt dans le centre-est de l'Inde. Le projet, c'est d'implanter des centrales électriques. Donc il y a une lutte entre les propriétaires de ces terres et puis les entreprises qui veulent implanter ces deux centrales. Donc les villageois affirment avoir été forcés de vendre leurs terres aux agents qui étaient bien sûr envoyés pour le compte de ces entreprises. Et ils essayent de se défendre. Pavitri, avec les membres de sa communauté, a fait déposer près de 100 plaintes officielles. Donc elle subit constamment des actes d'intimidation, puisque les hommes de main se rendent chez elle pour lui intimer l'ordre de retirer les plaintes, faire pression bien sûr, plaintes contre les entreprises. Et dès avril le 18, donc je pense que ça continue encore pour l'instant, alors elle résiste, hein, elle essaye pour l'instant de ne pas bouger, elle reste déterminée pour non seulement résister à ce qui lui arrive, puisqu'on la considère un petit peu comme chef dans le conseil de son village, et surtout aussi pour aider les membres de sa communauté à protéger les terres, de leurs terres qui sont des terres ancestrales. Donc on va essayer d'apporter une protection adéquate à cette femme et à la communauté Adivasi en Inde.
Bien, je vais vous parler, moi, du peuple autochtone Singuer, chers auditeurs de Albigès. On reste donc dans le cas de ces groupements qui sont expulsés violemment. Et c'est le cas donc des Singuer qui sont au Kenya, qu'on veut expulser violemment de leur forêt. Ils vivent depuis des siècles dans cette forêt. Et depuis 2012, les gardes forestiers et la police ont mis le feu à 2600 maisons et quelques 4500 personnes se sont retrouvées brutalement sans abri. Un homme a été abattu en janvier 2018, etc. Violence, donc, pour les faire quitter cette zone dans laquelle ils vivent depuis très très longtemps. Voilà, donc, évincer leur forêt, leur maison, ils se retrouvent, ces Singuer, dans le dénuement le plus total. Et les femmes sont en particulier les plus durement touchées. Alors, le gouvernement kényan prétend qu'il veut réduire la déforestation, mais il n'a aucune preuve que les Singuer nuisent à la forêt. L'empreinte environnementale de ce peuple est justement très faible, ça paraît un peu évident. Et il devrait au contraire être reconnu comme propriétaire gardien naturel de la forêt d'Ambobout. Donc venez aider ce peuple à garder la forêt comme territoire.
Alors, je vais vous parler de Vitalina Koval, qui défend l'égalité pour toutes et tous en Ukraine. Elle a coordonné notamment le travail d'un centre social à Ouzhgorod, sa ville natale, et destiné aux personnes LGBTI. Le 8 mars 2018, elle a organisé une manifestation à l'occasion de la journée des droits des femmes, et elle a été agressée par 6 membres du groupe radical Karpatska Sikh. À sa sortie de l'hôpital, elle s'est rendue au poste de police, où elle a dû insister pendant plusieurs heures pour que sa plainte soit enregistrée, est qualifiée d'infraction motivée par la haine. Ses agresseurs arrêtés ont pu l'entendre décliner son adresse à haute voix avant d'être relâchée. Et par la suite, elle a reçu d'autres menaces ainsi que d'autres militantes qui déclarent avoir été tabassées. Donc il n'y a pas eu d'enquête effective suite à cette journée du 8 mars qui s'inscrit dans un contexte de regain de violence de la part des groupes d'extrême droite qui perturbent les débats publics, menacent les journalistes, agressent les militants. 30 agressions similaires ont été recensées par Amnesty International depuis le printemps 2007, dans une impunité quasi totale.
Très bien, il faut la défendre. À toi, Jean-Marie.
Eh bien, on va se porter en Égypte et parler d'Amal Fati, qui, elle, est condamnée parce qu'elle a posté une vidéo pour dénoncer le harcèlement sexuel en Égypte. Il bon, faut se rappeler, pour ceux qui l'ont vu, le film « Les femmes du bus 678 », qui était un exemple de ce qu'elle a vécu, je pense. Elle a 33 ans, Amal Fati, donc, et elle dénonce la situation des droits humains dans son pays, particulièrement le harcèlement sexuel dont sont victimes les Égyptiennes. Elle a 3 enfants. Et elle a publié sur Facebook une vidéo de 12 minutes qui raconte comment elle a été harcelée sexuellement alors qu'elle se rendait dans une banque. Et elle soulignait l'urgence pour les autorités de s'attaquer à ce fléau et critiquait bien sûr les manquements de l'État à l'égard des droits fondamentaux. Elle a 3 enfants. Eh bien, malgré tout, elle a été condamnée le 29 septembre dernier à 2 ans de prison et 10 000 livres égyptiennes, c'est-à-dire l'équivalent presque de 500 euros d'amende, pour appartenance à un groupe terroriste, diffusion d'idées appelant à commettre des actes terroristes, enfin bon, voilà, un petit peu... Et puis dissémination de fausses informations. Alors cette vidéo, comme vous pouvez l'imaginer, a été relayée bien sûr largement, mais cette fois-ci accompagnée d'injures sexistes en réclamant l'arrestation d'Amal, ce qui a été le cas. Et bon, suite à l'arrestation de son domicile et son mari, alors que son mari était un ancien chercheur d'Amnesty International, donc lui il a été libéré. Je pense que ça a dû un peu le protéger vraisemblablement. Donc on sait qu'en Égypte, il y a de nombreux journalistes, de nombreux militants et même citoyens qui sont condamnés un peu sur la base de messages qui sont postés sur Twitter ou Facebook et puis qui sont communiqués au service de l'État. C'est suffisant pour pouvoir ensuite se retrouver en prison et être arrêté.
Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, chers auditeurs Radio Albigès, j'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on ne vous a pas fatigué, épuisé. De toute façon, ces informations-là, vous les retrouverez sur nos sites à Carmo, Albi et en ligne, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc venez discuter avec nous, venez nous rencontrer, venez signer nos pétitions. On a besoin de vous. N'oubliez pas que cette opération, je crois pas l'avoir dit en introduction, est une opération internationale, c'est-à-dire qu'au même moment, dans 70-80 pays dans le monde, se passe la même opération, et que toutes ces signatures, une fois ramassées, mises ensemble, font un joli paquet que l'on peut déposer le moment venu, quand il le faut, sur la table donc de l'autorité qui viole le droit en question. Et comme on vous l'a montré un petit peu, ça fonctionne, pas dans tous les cas, mais ça fonctionne relativement bien. Voilà. On compte sur vous, venez nous voir. Bien, alors on va évoquer quelque chose qui nous chagrine quand même. Notre secrétaire général Kumi Naidoo a écrit à Aung San Suu Kyi pour l'informer que l'organisation lui retirait le prix qu'elle lui avait décerné en 2009, ce fameux prix ambassadeur de la conscience qui est quand même la plus prestigieuse distinction qu'Amnesty International décerne. Jackie, peux-tu nous en dire plus et nous lire la lettre peut-être qu'a écrite Kumi Naidoo?
Donc Aung San Suu Kyi a fait de la politique depuis septembre 88. Elle a créé un nouveau parti, la Ligue nationale pour la démocratie au Myanmar. Mais en juillet, donc elle était contre la junte militaire, mais elle a accédé au pouvoir le 20 juillet 89. Mais elle a été arrêtée et placée aussitôt en résidence surveillée, et ce jusqu'en novembre 2010. Donc pendant ces 21 ans, elle a passé plus de 15 ans en résidence surveillée. Donc depuis 2010 qu'elle a été libérée, elle a repris sa vie politique. Elle est au pouvoir et elle n'a pas empêché la junte militaire de commettre des exactions face aux Rohingyas.
Tout à fait.
Donc maintenant je vais vous lire la lettre donc, du secrétaire général d'Amnesty International. Cher Aung San Suu Kyi, il y a 9 ans, Amnesty International vous a décerné sa plus prestigieuse distinction, le prix ambassadeur de la conscience. Lorsque nous vous avons remis cette récompense, vous étiez un symbole d'espoir, de courage et de défense inépuisable des droits humains, non seulement pour le peuple du Myanmar, mais aussi pour les citoyens du monde entier. En tant qu'ambassadrice de la conscience d'Amnesty International, nous espérions que vous continueriez d'user de votre autorité morale pour dénoncer l'injustice où qu'elle se manifeste, et pour le moins au Myanmar. Au lieu de cela, nous sommes à la fois inquiets et déçus pour votre trahison manifeste et persistante des valeurs fondamentales que vous avez défendues pendant des décennies. Vous avez choisi d'ignorer et d'excuser la violente répression et les crimes contre l'humanité commis par l'armée contre les Rohingyas et les minorités dans l'État Kachin et le nord de l'État Shan. Et votre bureau s'est employé à soustraire l'armée à un examen international et à l'obligation de rendre des comptes. En outre, nous sommes consternés par les discours de haine qu'a tenu votre gouvernement à l'égard des minorités, encourageant, au lieu de freiner, la discrimination et l'hostilité. En tant qu'organisation ayant œuvré sans relâche à votre libération, et à la libération de tous les prisonniers d'opinion au Myanmar, nous déplorons vivement que votre gouvernement n'ait pas abrogé ou modifié les lois répressives, mais s'en soit servi pour restreindre la liberté d'expression et arrêter et emprisonner les défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants pacifiques. Aujourd'hui, nous sommes profondément déçus que vous ne soyez plus un symbole d'espoir, de courage et de défense inépuisable des droits humains. Incapable de justifier le maintien de votre statut de lauréate du prix d'ambassadrice de la conscience, c'est avec une grande tristesse que nous vous la retirons par la présente. Nous restons inébranlables dans notre engagement à garantir que tous les citoyens au Myanmar puissent exercer leur droit librement, dans la dignité et en toute égalité.
Voilà qui est bien dit, malheureusement. Voilà, chers auditeurs de Radio Albigès, notre émission se termine. Le groupe Amnesty International d'Albi vous attend pour cette opération 10 jours pour signer, comme tous les ans. Ça fonctionne bien. Nous serons, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle simplement, à Carmo et Albi. À Albi le vendredi 7 et le samedi 8 décembre. À Carmo le mercredi 5 et le samedi 8. Et nous serons également à Gaillac pour un film le 6 décembre. Nous attendons nombreux. Venez signer. La situation est très délicate et de plus en plus, je dirais, dans tous les pays du monde. Donc, il ne faut pas se relâcher. Voilà. Vous pouvez aussi intervenir sur toutes ces situations. Donc, en allant signer les pétitions en ligne sur le site amnesty.fr, soyons nombreux et nous enlèverons quelques victoires significatives. Avant de conclure, je voudrais quand même simplement vous rappeler une pétition sur les États-Unis. Vous savez que les demandeurs d'asile sont enfermés, les familles sont séparées. C'est une pétition que nous venons de sortir, l'Amnesty International, on a commencé à faire signer. Je vous demande de bien vouloir aller en ligne et de la trouver, de la signer. Je crois que ce qui se passe actuellement à la frontière, vous voyez ces cohortes de réfugiés qui arrivent d'Honduras, d'Amérique centrale et qui sont bloqués, plus ceux qui étaient déjà arrivés, on a séparé les familles. Il faut, je pense, montrer que l'on ne peut pas admettre cette situation-là. Voilà. Donc, nous comptons sur vous. Donc, simplement, si vous souhaitez agir avec le groupe, vous pouvez nous contacter. Nous avons une messagerie, amnesty.albi@laposte.net. Nous prendrons alors contact avec vous. Nous avons un blog, vous le trouverez très facilement par moteur de recherche, Amnesty Albi, pas de problème. Cette émission sera d'ailleurs podcastée sur le blog, dites-le autour de vous. Elle sera podcastée pendant un certain nombre de jours sur Radio Albigès, que l'on remercie encore une fois. 6 années de collaboration, merci Will. Voilà, et merci de nous avoir écoutés, de nous faire part de vos commentaires et suggestions à ces mêmes adresses. N'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir.